Tu t'approches de moi. Tu es en voiture, dans le train, le métro, le tram. Tu es à vélo, à moto. Tu marches, tu glisses, tu flottes peut-être. Tu t'approches de moi. Je t'attends. Dans un théâtre, un auditorium, peut-être une galerie. Probablement dans une salle, et même, qui sait, sur une scène. Tu t'approches de moi. Tu t'approches pour me voir et je t'attends. On va se voir d'une minute à l'autre. Je pense à toi. Je pense tout le temps aux gens qui vont au théâtre. Je pense à la durée du trajet, au chemin qu'ils parcourent, aux personnes qu'ils croisent, aux paysages qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils attendent ? À quoi pensent-ils ? Est-ce qu'ils se sentent bien ? Je me demande s'ils ont des regrets, s'ils se sentent coupables. Je me demande s'ils aimeraient que quelque chose soit différent. Je me promène dans l'espace et je note la sobriété de la scénographie. Elle est sobre, mais j'aimerais qu'elle ne le soit pas. J'aimerais que ce soit différent. Par exemple, j'aimerais que ce soit un parc d'attractions, des manèges, de la barbe à papa et du soleil, ou peut-être une immense ferme, une ferme sur un plateau, les gens, les animaux, les légumes, la musique, de l'herbe sur un côté, une voiture au centre. À l'avant-scène, un clown déguisé en robot, au grand bonheur des familles qui traversent l'avenue principale parsemée de fleurs et d'arbres fruitiers. La scène est tellement immense qu'elle peut même contenir un aquarium géant avec des requins, des raies et d'autres espèces de petits poissons. La salle peut accueillir 1200 personnes. Mon costume est un survêtement en cachemire de l'Himalaya. Je porte des patins, des boucles d'oreilles en diamant et un diadème en or et rubis. Dans les coulisses, il y a des carottes, des fleurs, du gin tonic, des fruits, des masseurs, des professeurs de chant et des assistants. Tout le monde a son propre assistant, même les assistants. Au bout du couloir, il y a une bibliothèque de plus de 200 000 ouvrages et un jardin de 800 mètres carrés, réputé comme l'un des plus beaux jardins du monde. On vient y entendre des chanteurs ou suivre des séances de thérapie. Il fait froid dans le jardin. Tu as pris un manteau ? Ça peut se rafraîchir. Tu as mal quelque part ? Tu as faim ? Tu es accompagné ? Tu viens toujours accompagné au théâtre ? Certaines personnes n'aiment pas rester seules au théâtre. Tu as oublié quelque chose ? Tu voulais vraiment venir ou tu t'es senti obligé ? Le billet était cher ? Tu aimerais que quelque chose soit différent. Je me souviens de la première fois que j'ai fait du théâtre. J'avais 8 ou 9 ans. Mon personnage s'appelait La Paix. Alors je portais une longue tunique blanche jusqu'aux pieds. Le seul souvenir que je conserve de mon texte, c'était quelque chose à propos de la stabilité qui contribue à la paix. Le courage de conserver les choses à leur place, pour nous préserver de la douleur et de la souffrance. Les autres personnages étaient l'amour, la liberté et d'autres mots dont je ne me souviens plus. C'étaient tous des enfants. Nous avions de longs textes à dire sans sortir de scène. C'est faux. À un moment donné, je devais sortir, rejoindre les coulisses et prendre une colombe blanche que je tenais cachée sous ma tunique. À la fin du spectacle, j'ai dû symboliquement et littéralement lâcher la colombe de la paix. Je me souviens que les gens ont fait « Oh !» Et j'ai su que j'avais bien fait, que j'avais réussi à faire ce qu'il fallait. Pas loin du théâtre où j'ai lâché la colombe, il y a un château. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai souvent eu la chair de poule à l'entrée des châteaux et des palais. Plus il y avait de meubles, plus c'était bouleversant. Je m'y voyais au quotidien, emprunter les longs couloirs, m'adosser aux cheminées, m'allonger sur les lits à baldaquins. Un jour, je suis entrée dans un château en ruine. Je me suis postée sur un des petits tabourets longeant les fenêtres arquées du salon central. Et je me suis rendue compte que j'étais assise sur une pierre où s'étaient déjà installés beaucoup de gens d'époques différentes, avec de longues tuniques traînant par terre. Et ça m'a émue. Je me suis demandé à quoi ils pensaient, s'ils avaient pensé au futur. Je me suis demandé si les couleurs étaient les mêmes ou si la réalité semblait différente. Il fait froid dans le château. Ont-ils une veste ? Cela pourrait se rafraîchir. Ont-ils mal quelque part ? Ont-ils faim ? Sont-ils accompagnés ? Certaines personnes n'aiment pas rester seules dans les châteaux. Ont-ils oublié quelque chose ? Voulaient-ils vraiment venir ou se sont-ils sentis obligés ? Voulait-il que quelque chose soit différent ? J'ai regardé le sol pierreux, les murs pierreux, le plafond pierreux et j'ai pensé à l'ancienne maison de mes grands-parents. Une maison en pierre, des murs blanchis à la chaux où il faisait toujours froid. Un jour, je jouais dans la cour lorsque quelqu'un a tué une poule en lui tranchant la gorge et en lui coupant la tête. Je jouais dans un coin de la cour, le plus loin possible du cadavre. Je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas le regarder, pas même m'y confronter. Je voulais être invisible. Il faisait beau et le jardin était rempli de moustiques, de papillons et d'abeilles. Et je me suis demandé où dormaient les moustiques, les papillons et les abeilles et s'ils avaient froid la nuit. Soudain, le corps de la poule a bougé. J'ai paniqué. J'ai accusé mon imagination. J'ai retrouvé mon calme. Alors le cadavre de la poule a déployé ses ailes et s'est mis à ramper dans ma direction sur 2 ou 3 mètres. J'ai crié à l'aide et je suis partie. Cette nuit-là, je me suis demandé ce que la poule sans tête pouvait ressentir. Je me suis mise à sa place et j'ai imaginé ce que ce serait de continuer à vivre. Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que tout serait pareil ? Je m'imaginais être la première personne au monde à vivre sans tête. Je donnais des interviews, j'apparaissais dans les journaux. Le monde entier parlait de l'enfant qui vivait sans tête et certaines personnes n'y voyaient qu'une histoire, un mythe, une allégorie, une métaphore, un symbole. Ton trajet se passe bien ? Tu observes ce qui t'entoure ? Est-ce que quelque chose a attiré ton attention ? Parfois, certaines expériences nous laissent une cicatrice indélébile. Elles peuvent changer de place, de forme et de couleur, être oubliées un instant, nous démanger à nouveau, mais elles sont toujours là, quelque part. Et souvent, elles ne représentent rien. Ce sont de longs vêtements, des poules sans tête. Elles sont là parce qu'elles sont là. D'autres fois, ces cicatrices sont importantes. Un moment important de ta vie, par exemple. N'importe lequel. Pas forcément le plus joyeux ou le plus triste, mais un moment où quelque chose a changé. Que s'est-il passé ? Pour moi, une des cicatrices commence dans la rue. Une rue qui commence par une descente assez raide, puis retourne à la normale. C'est à cet endroit que je me trouvais, là où la rue se redresse. J'étais au volant, j'arrivais de l'autoroute, ça je le sais. Mais je me souviens pas où j'allais. En fait, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé ensuite. J'écoutais l'album d'une artiste que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Angel Olsen. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'écoutais l'album My Woman. J'avais déjà écouté plusieurs fois cet album, constitué une liste de mes morceaux préférés, et Sister n'y était pas. J'aimais bien la chanson, mais je l'avais jamais vraiment écoutée. Jusqu'à ce jour, et cette rue qui se redresse après une descente, où j'ai réellement entendu Sister d'Angel Olsen. Le morceau progressait, la pente diminuait, quand soudain, à l'instant précis où mon regard s'était stabilisé, j'ai été attaqué par une mélancolie si accablante que j'ai dû arrêter la voiture pour ne pas m'écraser. J'ai ressenti une collision à l'intérieur de mon corps, comme si une force invisible comprimait mon torse et m'empêchait de respirer. J'ai stoppé la voiture sur le bord de la route et, les mains sur le volant, les phares allumés sur la chaussée, éclairés par la lune, j'ai pleuré. Je crois que j'ai pleuré comme jamais je l'avais fait depuis des années. Comme si cette pression sur mon torse avait fait éclater un ballon rempli d'air et d'eau qui se répandait librement. Je sanglotais, je gémissais. Tous ces sons me paraissaient étranges. L'épaisseur des larmes, le souffle court, la sensation d'étouffement. J'ai mis du temps à me ressaisir, puis passé de longues minutes à chercher un mouchoir pour essuyer toute l'humidité qui s'était répandue sur mon visage et mes mains, mais j'ai rien trouvé de convenable. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Je venais de tout comprendre. Je venais de réaliser que « All my life I thought I'd change », comme elle le dit dans le morceau, ce qui peut se traduire par « Toute ma vie, j'ai cru que j'allais changer », ça peut paraître anodin, mais pour moi, à ce moment-là, ça représentait tout. Cette inquiétude qui résumait ma vie, elle était là, visible. Toute ma vie, j'ai cru que j'allais changer. C'est difficile de mettre des mots sur cette sensation de clarté mentale, cet instant où l'on comprend, on réalise quelque chose de si évident. J'ai eu une révélation. J'ai compris que j'allais mourir. Je le savais, bien sûr, mais cette fois, je ressentais l'accablement de cette inévitabilité. Je pouvais mourir n'importe quand. Je pouvais mourir à 100 ans, oui, mais je pouvais mourir tout de suite. Et je mourais de tristesse. Quel gâchis! Passer ma vie à fantasmer, à attendre que le monde extérieur m'apporte du bonheur. Quel gâchis de corps, d'esprit, de temps, de rage, de désir, de bonheur. Quel gâchis de combat, de voix, de croyance, de révolution. Pendant des années, je me suis convaincue que j'avais le temps. Mais le temps a perdu sa lenteur. Il est devenu de plus en plus envahissant, étouffant, exaspérant. J'ai eu l'impression d'avoir été trahi. Moi, c'est moi qui me suis trahi. Mais je n'en avais pas conscience. Je n'avais pas le vocabulaire, la lucidité ou le besoin de cette pensée. Je ne l'avais jamais eu jusqu'à ces mots d'Angel Olsen. Sur cette route étroite, dans la solitude de la nuit, sous le clair de lune. Toute ma vie, j'ai cru que j'allais changer. C'était ça le plus violent. C'était ça le plus cruel. Le morceau continuait. La musique jouait au rythme effréné de mes pensées. J'ai monté le son pour alimenter ma douleur d'une façon à la fois séduisante et masochiste. Alors, comme on prétend que cela arrive juste avant de mourir, des flashs ont commencé à jaillir dans mon esprit, des flashs du passé lointain, du passé proche, du présent et du futur. Des flashs où je me voyais dans une tunique blanche, relâcher une colombe blanche dans un théâtre, où je courais dans les couloirs d'un château dans une longue robe bleu indigo, longue jusqu'aux pieds, où je tenais la main de ma meilleure amie, la poule sans tête, en marchant côte à côte sur un sol calcaire. Il y a des choses qu'on garde avec soi. Tu t'approches de moi. Tu t'approches pour me voir et je t'attends. Je pense à toi. Comment es-tu? As-tu froid? As-tu faim? Voulais-tu vraiment venir? Je me demande si tu penses que je pense à toi. On va se voir d'une minute à l'autre. Ça y est presque.